Vous écoutez Gravel dans le retour.
418-971-1021, s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, merci d'être des nôtres. À Boulevard, c'est Gravel dans le retour, notre premier top de sport de la saison avec Gab Marino. On a ça pour vous autres tantôt. Mais pour l'instant, avant de parler de chicane de couple et de règlement de compte public, ben on va regarder ce qui se passe dans la circulation, Audrey.
Les incidents majeurs sont pas mal terminés, mais les ravages sont faits. Là, pour vous donner une idée un peu plus claire, pas mal tout le réseau est au ralenti. Là, si j'y vais avec quelques précisions, route de Fossambeau entre route des Érables et route Jacques-Cartier, des ralentissements. Route de la Bravoure devant la base militaire dans Coin de Shannon, dans les deux directions, super difficile de circuler. Si vous êtes sur la capitale, direction Est en ce moment, entre Henri IV et Laurentienne, particulièrement au ralenti, direction Ouest, ça se passe entre Bourg-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, c'est problématique entre Charest et la capitale. Direction Sud, c'est entre Charest et le boulevard Laurier que ça se passe. Boulevard Laurier dans les deux directions près des ponts. Super difficile. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Charest, ça ralentit jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Duplessis Sud, même chose. Pour ce qui est de la rive Sud, ça se passe sur la 20 direction Ouest entre Monseigneur Bourget et Taniata. Quelques problèmes sur chemin des îles. Hauteur de la 20 aussi, c'est à considérer. Quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-1021 par texto.
Dans la dernière semaine en Amérique du Nord, il y a comme deux chicanes d'ex qui ont retenu l'attention. Une au Québec et une aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'ex-conjoint de Halle Berry, le joueur de baseball, Roger
son nom.
Clemens.
Je pense que c'est ça,
ça
ouais.
Son nom. Il a fait une entrevue où il est allé parler de Halle Berry pour dire qu'il ne la voyait pas comme une femme qui était en mesure de s'occuper de ses enfants, puis ainsi de suite. Il y avait quand même quelques vacheries et quelques méchancetés là-dedans.
Là. Je l'ai laissé parce qu'il n'avait pas l'air d'une femme qui allait être capable de me faire à manger puis faire le ménage.
Il y avait ça, il y avait d'autres choses aussi, mais tu voyais que on rentrait dans ce qu'on pourrait appeler le règlement de compte public. Là, tu sais. Et cette semaine, ben, c'est l'histoire...
David Justice, son nom.
Dave Justice, bon, on s'est trompé. Mes excuses. Puis cette semaine au Québec, c'est Isabelle Desjardins et David Desharnais qui ont retenu l'attention des propos qui ont été quelques heures sur les réseaux sociaux, qui ont été capturés par à peu près tout le monde et impossible de remettre le dentifrice dans le tube de pâte à dents une fois que c'est sorti. Ça s'est ramassé sur le sac de chips, ça s'est ramassé sur le Journal de Québec. Et tous ceux qui avaient le goût de me mérer puis de potiner, ben ont eu accès à ces choses-là qui ont été publiques pendant quelques heures.
Il y avait beaucoup d'allégations là-dedans.
Ben
dans
oui.
Ce temps-là, tu te dis, ben c'est sûr que le légal va finir par s'en mêler.
Puis on en a jasé en table ronde, puis on essayait de réfléchir là-dessus parce que maintenant, tout le monde est un peu une personnalité publique avec les réseaux sociaux et tout ça. Puis on s'est dit, tabarnouche, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un au niveau du légal pour nous donner des conseils en cas de séparation. Puis j'ai eu la chance de vous parler dans les derniers mois de Mast Avocat, des avocats en droit familial et du droit des affaires à Québec. D'ailleurs, ils ont un site qui est très bien fait, qui répond à des questions que vous avez peut-être dans des périodes de vie comme celle-là. Mast Avocat, avec un S.ca. Et il y a Maître Dave Simoneau qui est en studio avec nous autres de chez Mast Avocat. Maître Simoneau, bonjour.
Bien, bonjour à vous tous.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Les gens qui viennent vous voir dans votre bureau, c'est des gens qui sont émotifs, c'est des gens qui sont des fois en colère. On est déjà souvent dans un état d'esprit où on est en mesure de prendre toutes les mauvaises décisions dans le mauvais ordre.
Ça, c'est sûr.
Oui.
Quand on reçoit des gens dans nos bureaux, la séparation a eu lieu ou la séparation va être à venir, mais on prend des informations, justement. Et ces informations-là, les personnes sont très émotives.
Est-ce que les gens arrivent trop tard dans le processus la plupart du temps?
Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, il y a des gens qui font quand même leur devoir puis ils décident justement de consulter un avocat lorsqu'ils voient qu'un peu la soupe chaude qui arrive au niveau de la séparation. C'est ce qu'il faut faire préalablement. Sinon, ben, au cours de la séparation, il n'est pas trop tard non plus. Donc, au cours de la séparation, tout dépendant qui peut, tout ce qui peut arriver, c'est aussi le bon moment. De tout moment est un bon moment quand même pour aller voir un avocat et consulter pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour plus tard.
Ce qui est bon pour vous autres, dites des fois d'un œil extérieur, il y en a qui vont dire « Ah, les avocats, c'est le fun quand la chicane pogne puis que c'est le bordel puis que ça dure longtemps. » C'est pas comme ça que vous faites votre business.
Non,
hein?
Pas vraiment, non. En fait, on aime mieux régler le tout quand même assez rapidement et à l'avantage de tout le monde. Mais surtout, premier avantage, s'il y a des enfants dans le dossier, pour les enfants.
Ben parlons-en parce que vous avez fait la liste de 10 conseils en cas de séparation. Puis je pense que les premiers conseils, ça se dirige vers les enfants.
Oui.
enfants.
Oui, exactement. Donc, en fait, on établit justement une liste de... Puis cette liste-là, c'est pas une liste qu'on a inventée du jour au lendemain pour aujourd'hui. C'est tout simplement ce qu'on dit à nos clients.
Okay.
Donc, tous ces conseils-là, c'est ce qu'on dit à tous les clients qu'on rencontre qui ont besoin d'informations. Ça vaut pour tout le processus, autant avant, pendant, après. Surtout après la séparation, il faut s'y régler. Il faut aussi maintenir ce qu'on appelle une coparentalité. C'est quand même essentiel.
Ouais.
Donc, tous ces conseils-là, c'est ça l'objectif. Et le premier conseil, c'est quasiment la règle d'or. Il y a un de ces conseils-là à retenir parmi les 10 là, que je vais vous nommer aujourd'hui. C'est le premier. C'est qu'il faut protéger les enfants du conflit. Ça, c'est sûr et certain.
C'est la première réaction que bien du monde ont eue quand il y a une chicane publique qui éclate sur les réseaux sociaux. C'est de dire « pauvres enfants ».
C'est les enfants, malheureusement... sont très sensibles.
Mm-hmm.
On parle, bien sûr, aussi d'une belle proximité entre parents, enfants également. Les enfants, quand ils voient la séparation, ne voient pas ça de la même manière que nous, on peut le voir.
Ouais.
Les enfants, c'est toujours maman et c'est toujours papa.
Ouais.
Il ne faut jamais oublier ce détail-là. Et c'est là
l'attachement de l'un et l'autre.
Exactement, c'est l'attachement.
Puis, il y a la relation directe. Nous, ce qu'on parlait cette semaine, c'est que, mettons, des enfants en bas âge, quand des parents mettent des affaires sur les médias sociaux, ils ne voient pas nécessairement. Sauf qu'avec le temps... C'est facile de retrouver ça, tout se rattrape, tout finit par se savoir. Mais à court terme, effectivement, les propos qui vont être tenus par l'un et par l'autre, ça va ternir la personne avec qui tu avais choisi d'avoir des enfants.
En fait, ça va venir affecter ce que nous, on appelle dans notre jargon, il y aura un conflit de loyauté qu'on va parler.
Mm-hmm.
Donc, un conflit de loyauté
chez
l'enfant.
Ils vont sentir le besoin de devoir prendre parti.
Exactement, ce qui ne doit pas être. C'est terrible de mettre
une responsabilité comme celle-là sur les épaules d'un enfant.
Et de toute façon, ces éléments-là que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas spécifique, c'est vraiment dans tout. N'importe quelle personne qui va nous rencontrer chez Master Avocat ou peu importe le bureau d'avocat qu'on
dans
va nous rencontrer, les familialistes vont parler de ça, on n'a pas le choix. Okay? Donc, il faut justement éviter d'impliquer les enfants dans les tensions puis dans les désaccords qui sont liés à la séparation. C'est sûr et certain. L'exemple classique, c'est que on est en présence d'un des deux parents où est-ce qu'on vient dire à l'autre parent « t'es ainsi, t'as fait ci, t'as fait ça », mais l'enfant n'est pas loin.
Il est témoin de ça.
Il est témoin de ça. Il est en train...
que des fois, c'est voulu, par exemple, pour certains parents. Là,
ça dépend.
Il y en a que dans le collège, ils ne voient pas.
Pour parler d'aliénation parentale, je n'irai pas là parce que c'est quand même assez complexe puis il y a des critères. Puis je n'irai pas dans cette section-là. Mais ce qu'on peut peut-être dire, par exemple, c'est de venir parler d'un problématique au niveau de la loyauté des enfants. Donc, eux... ils vont se sentir déchirés entre les deux parents. Et c'est justement ça qu'il faut éviter parce que les principales personnes qui vont écoper de tout ça, sont les enfants en tant que tels.
Le conseil numéro 2, Maître Simoneau, ça revient un peu à la même chose. Mais souvent, c'est là que tu commences à négocier quand tu as le cœur à la bonne place. Mettons que tu as de la rancœur, peut-être même de la haine envers l'autre personne. La séparation, ça n'a pas bien été. Quand tu priorises le bien-être de tes enfants puis que les deux parents aiment leurs enfants... c'est peut-être là que tu commences à négocier par trouver ton pH un peu.
Bien, effectivement, c'est à partir du moment où est-ce que les deux parents mettent en priorité le bien-être des enfants, c'est là qu'on va commencer à avancer de façon correcte dans la séparation. Donc, pour s'en sortir tous les deux aussi. Là. Donc, il y a ça aussi, parce que chacun veut faire leur propre vie à part. Et c'est tout à fait légitime. Là. C'est tout dépendant. La cause de la séparation n'est pas là-dedans. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'objectif, c'est de prioriser le bien-être des enfants dans toutes les prises de décision qu'on va avoir au fur et à mesure de la séparation.
Comme?
Donc, par exemple, s'il y a un déménagement à y avoir, s'il y a des changements d'école à y avoir, par exemple. Donc, il faut
les
quand même y penser.
Les villes, l'impact que ça va avoir sur la dynamique de la guerre, par exemple.
Exact.
Est-ce qu'on est plus ouvert qu'avant sur les multiples scénarios d'entente? Parce que je vois plein de gens séparés, puis autour de moi, il n'y a aucun modèle qui fonctionne de la même façon. J'ai des parents qui vont quitter la résidence familiale pendant une semaine. Pour y revenir une semaine, l'autre parent s'en va pour permettre aux enfants de garder leur milieu. J'ai des voisins, moi, c'est 2 mois d'un bord, 2 mois de l'autre. Puis je me dis... c'est une phrase que vous entendez fréquemment, là. Il n'y a pas juste une recette pour faire un bon gâteau. On dirait que maintenant, on est peut-être plus ouvert à des plans qui laissent un petit peu plus de place à l'imagination, la créativité, mais aussi la personnalisation de nous autres, c'est de quoi qu'on a besoin justement pour que nos enfants soient mieux.
Mais en fait, il faut juste que le plan puisse bien fonctionner. C'est-à-dire, chaque dossier, c'est un cas par cas. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Donc, c'est pas parce qu'il y a deux parents qui vont vivre des faits que deux autres parents vont vivre les mêmes faits.
Exact.
Donc, chaque cas est un cas d'espèce qu'on appelle dans notre jargon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu viens de dire, il y a plusieurs possibilités. Il faut juste voir quelle est la meilleure possibilité qui va s'appliquer dans la situation de ces deux parents-là puis pour leur enfant.
Conseil numéro 3?
Conseil numéro 3, c'est bien sûr de favoriser un compromis avec l'ex-conjoint. Pourquoi qu'on parle de ça? Parce que c'est sûr et certain que si on veut faire une entente à l'amiable, éviter l'aspect judiciaire pour plus tard, éviter des gros conflits qui n'en finissent plus, c'est normal qu'on puisse se dire que, premièrement, on doit s'arrêter 2 secondes, se dire, ben, est-ce que je vais maintenir ma prise de position ferme ou je vais mettre un peu d'eau dans mon vin?
Malléable un peu.
Exactement. Puis de prendre de réfléchir à savoir c'est quoi qui est le plus important, finalement, dans ce que je veux faire.
Et non pas juste pour faire chier l'ex. Là.
Exactement.
Mmh. C'est-tu de rester en maudit ou c'est de régler ça?
C'est de régler ça.
numéro 4, la médiation familiale.
En fait, pas de suite. En fait, l'autre question, ça fait partie quand même de la liste,
oui.
Mais je vais m'en aller avec autre chose. C'est bien beau, justement, de favoriser un compromis avec l'ex-conjoint. C'est juste qu'il faut quand même, encore faut-il qu'il faut mettre en place un mode de communication qui est clair dès le départ.
Ouais. Mm-hmm. Ça, éviter c'est super, les interprétations.
Exactement. Hein. Il faut éviter les malentendus. Il n'y a rien de pire que les malentendus dans un conflit de séparation, ce qui va amener encore plus de conflits.
Puis,
c'est pas ça qu'on veut.
Puis souvent, on dirait que ces malentendus-là, c'est là que ça va sortir devant des enfants. Puis que ça peut teinter des perceptions, alors que dans ta tête, tu fais juste parler d'un problème de communication, mais dans le ton, ça va avoir l'air amer, ça va avoir l'air comme compliqué, puis l'enfant peut se sentir responsable de ça aussi, là.
Mais ça peut arriver. Donc, ça va être tout dépendant le contexte, ouais. Tout dépendant comment c'est dit, tout dépendant en quoi le malentendu est dit à l'autre personne. En fait, il faut trouver juste le bon canal. Est-ce qu'on communique par courriel? Est-ce qu'on communique par texto?
On
par plateforme?
Des traces de ça? Faut-tu garder des traces de ces communications-là?
Ça dépend. Nous, c'est vrai que ça dépend, mais ça, la situation pour chaque personne, comme okay. Je dis. Sauf que si le conflit, on devient dans un conflit sévère, ou est-ce que c'est sûr, certain que ça doit être judiciarisé, ça serait important de conserver des traces écrites, là, justement, pour plus tard.
Puis sur quoi vous conseillez aux clients de s'entendre? Y a-t-il une base, je sais pas moi, les transports des enfants, y a-t-il une base aussi? Parce que je trouve que c'est flou un peu quand même. Là, tu veux t'entendre avec ton ex-conjoint, mais c'est pas tout le temps le même que ça se passe.
Bien, encore une fois, l'entente, ça va dépendre de c'est quoi le contexte. Donc, si on est en présence d'enfants dans le couple et là, on a une séparation, il faut s'entendre sur, tout d'abord, le choix de garde, s'entendre également sur le choix d'école si c'est nécessaire, le déménagement si c'est nécessaire, il faut s'entendre sur tout ça. Puis par la suite, il faut aussi s'entendre sur tous les menus détails qu'on peut avoir dans la séparation, pour la séparation des biens, par exemple. Ça peut même aller jusqu'au transport, justement. Qui va aller chercher l'enfant à telle heure pour la garderie? Qui va aller porter l'enfant à telle heure à l'école?
Mais donc, c'est la gestion. C'est toute la gestion. Tu vois que les émotions,
Puis vous parliez de bien communiquer. Vouloir commencer à négocier ça après 3 bières un vendredi soir avec un échange de texto... C'est peut-être pas la meilleure idée que vous avez dans votre semaine. Là.
Non, effectivement. Puis dans ces échanges-là qu'on va avoir, okay, oui. Autre chose importante, c'est bien beau d'établir le mode de communication, c'est qu'encore faut-il qu'il ne faut pas qu'on puisse... Premièrement, il faut éviter les reproches. C'est ça que je veux dire, éviter les reproches, éviter des menaces ou des chantages ou quoi que ce soit. On ne veut pas envenimer la situation. C'est primordial si on envenime la situation, si on fait des reproches à quelqu'un d'autre, bien, en fin de compte, à l'autre ex. Donc, ce qui va arriver, ça va être très simple. Ça va être d'envenimer encore plus le conflit.
Conseillez-vous aux clients d'aller consulter. Non, mais tu sais, on dit de ne pas envenimer la situation, mais c'est vrai que quand tu fais de la thérapie le moindrement, tu apprends à communiquer tes problèmes de la bonne façon aussi. Tu sais, on rit souvent, on voit ça dans les films, là, le « je me sens de telle façon » au lieu de dire « tu fais pas telle affaire ». Tu sais, y a-tu cette portion-là que vous abordez avec vos clients ou...
Ça peut arriver, mais dans un contexte de confidentialité, je vais dire ça de façon générale, je veux dire, normalement, les clients qui vont nous rencontrer, on parle de droit, c'est notre travail, mais on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre non plus. Donc, on est là quand même pour supporter la situation, ça va de soi. On va supporter la situation, on va aider notre client, on va cheminer avec lui dans le processus. Ça c'est très, 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 très important. Mais il en demeure pas moins que je ne suis pas psychologue non plus. Donc, l'idée là-dedans, c'est de si besoin est, oui, on peut aborder le sujet puis les guider vers des professionnels adéquats pour les aider là, dans le processus pour cheminer.
On a parlé des réseaux sociaux un peu plus tôt, puis c'était un peu notre introduction pour parler de tout ça. Quand on vient émotif, souvent, c'est une pulsion qu'on a de dire « Hey, à soir, là, je règle mes comptes, puis je vais écrire sur Facebook. Tout le monde va comprendre ce que je veux dire. »
Et on va voir ma version des faits.
Ouais, ouais. Le lendemain matin, tu regrettes, t'effaces tout ça, mais le mal est fait. Hein?
Le mal est fait. Le mal est fait, il est trop tard, c'est écrit et les écrits restent. Faut jamais oublier ça.
Reste pour les enfants aussi. Hein?
Exact. Ouais. Ouais. Donc, dans les circonstances, lorsqu'on est en présence justement de réseaux sociaux, donc Facebook ou peu importe le réseau social qu'on va utiliser pour la communication, il faut jamais mettre nos émotions. Puis ça, c'est quand même primordial, même dans le contexte de parler entre nous, justement pour régler certaines choses. Il ouais. ne faut pas mettre de l'emphase sur l'émotion. C'est difficile à faire, mais il faut le faire pareil. Il faut le faire pareil, il faut garder un peu la tête froide. Si on ne garde pas la tête froide, c'est là qu'on va s'embourber dans d'autres problèmes. Et aussi des problèmes juridiques, parce que tout reste.
Moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné à l'époque quand je m'étais séparé, de dire « Attends toujours une journée au moins avant de répondre. Essaye de te reculer le plus possible de tes émotions pour justement faire ça toujours à tête reposée avec le moins d'émotions possible. »
Oui, ça, c'est important.
Parce
important,
qu'on le devient important. Émotif dans une séparation, puis c'est là que les fils normal. Se touchent. Ben oui.
Exactement. C'est normal que dans le cadre d'une séparation, que autant les deux parents vont devenir émotifs, c'est absolument normal. C'est juste qu'il faut avoir un contrôle sur cette émotion-là. C'est ce qui devient difficile, ce qu'on appelle la gestion des émotions, et ainsi de suite. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même essayer du moins de faire attention à nos émotions pour prendre des décisions éclairées.
Puis je trouve que le conseil numéro 7, Maître Simoneau, va un peu là-dedans. C'est peut-être le conseil le plus philosophique de la liste. Accepter qu'une séparation, c'est complexe puis c'est compliqué.
Exact. Il faut accepter la complexité même de la séparation. C'est pas facile. C'est loin d'être facile. C'est un long chemin chaotique, mais ça va se faire. C'est juste que le chemin peut être court, il peut être long. On peut avoir des embûches en chemin, mais on va y arriver quand même. Il faut juste l'accepter. Et c'est en l'acceptant qu'il faut aussi accepter qu'il peut arriver des erreurs dans le processus. Et ça, il faut aussi l'accepter, ça. Et une fois qu'on a accepté ceci, ben, je pense qu'on a peut-être un petit bonus de fait dans le processus aussi pour aller de l'avant puis
dans
pour mieux réfléchir
aussi,
dans le meilleur état d'esprit.
C'est-tu d'apprendre un peu à choisir ses combats aussi? C'est dans le sens que, justement, les émotions sont déjà super présentes, mais de ne pas se chicaner sur des bébelles insignifiantes qui font pas de sens, tu sais, de je sais pas, d'essayer de rester ça à traque, là.
Oui, mais ça peut être, comme je viens de le dire, faut choisir ce qui est important pour nous.
Lâcher prise.
Donc, choisir ses combats. Donc, des fois, les menus détails qui nous paraissent le plus important pour soi va être pas vraiment nécessaire.
Ouais.
Est-ce que c'est nécessaire d'alimenter le conflit, d'alimenter toute cette chicane-là juste pour un petit détail de rien? Ça peut être, par exemple, pour une histoire, on pourrait dire de je sais pas trop quoi, là. J'essaie de voir des exemples. Ça peut être un exemple d'un objet précieux pour une personne ou un simple cuiseur ou quoi que ce soit, là.
Ça va aussi loin que ça, puis des fois, c'est rien que la garde d'un animal aussi, je veux dire. Ça peut être plein de choses où... Tu sais, tu dis, ah ouais, le chat, il est important pour elle, fait que je vais le garder chez nous alors que moi, je m'en sac comme l'an 40. Ouais, mais là, tu fais rien que ça pour la rancœur, puis tu fais rien que ça pour haïr, puis tu fais rien que ça pour faire chier. Toi, ça t'amène à rien, puis toi, ça amène de la chicane de l'autre bord, puis du ressentiment. Là, tu travailles plus à créer de la chicane qu'à essayer de régler les problèmes.
Le pire, là, c'est que ça doit pas te faire du bien à toi non plus. Là, si tu l'haïs, le chat, tu t'en comptes. Non, mais sérieux. C'est ça, tu veux pas te débarrasser de tout ce négatif-là, mais sans en séparation, tu sais.
Conseil numéro 8, Maître Simoneau. C'est drôle parce que quand on change d'adresse, on y pense, hein, de changer notre compte d'électricité, notre compte d'hydro, puis ainsi de suite. En cas de séparation, tous les documents légaux, c'est le temps de rechecker ça, là.
Oui, il faut checker ça, mais en même temps, il faut... Premièrement, il y a aussi, je vais aussi embarquer dans un autre conseil que je voulais dire aussi, c'est qu'on a tout dans notre famille, par exemple, je dis des exemples pour le propos, mon oncle Martin ou mon frère Clément qui vient dire « j'ai une opinion, j'ai toutes des opinions pour ta situation ». Puis c'est correct, c'est normal d'être appuyé par sa famille, d'avoir de l'aide et du support, c'est surtout important pour passer la tempête, sauf qu'il n'y en demeure pas moins que c'est ultra important d'aller chercher les bonnes sources juridiques pour savoir c'est quoi ma situation présentement.
Facebook n'est pas une source d'information.
Exactement, ce n'est pas une source d'information, ce n'est pas une preuve.
Oui, mais j'ai lu ça sur Internet. Oui, mais tu l'as lu où sur Internet? Puis tu sais, des fois, quand tu fais des recherches légales, tu vas te retrouver avec des exemples qui vont être dans d'autres pays, par exemple, qui ne s'appliquent pas pantoute ici. Fait qu'il faut faire attention à ça, j'imagine aussi. Là.
Oui, il faut faire attention. Comme je dis, il faut consulter des sites officiels comme ceux du gouvernement, par exemple. Il y a le Barreau du Québec ou la Commission des services juridiques qui vont apporter les sources qui vous manquent pour comprendre votre situation. Parce qu'il est judicieux de bien comprendre les implications juridiques, mais ça, de notre statut conjugal. Là. Donc, savoir...
Puis ça a changé récemment, ça.
Oui,
hein?
Oui.
Oui, concernant les conjoints de fait, il y a des choses qui ont changé depuis quelques mois.
Il y a l'union parentale qui est arrivée, justement, depuis le 31 juin de cette année. 30 juin, excusez-moi, 30 juin de cette année.
Oui.
Mais une chose qui est sûre, c'est que est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on est en union civile? Est-ce qu'on est en union de fait? L'union parentale? C'est tout ça qui embarque dans l'équation. Donc, les conséquences juridiques ne seront pas les mêmes. Il faut faire des vérifications. Donc, il faut s'informer auprès des sources fiables. Puis, bien sûr, mettre à jour, comme tu dis, les documents légaux par la suite pour faire correctement la séparation.
Mm-hmm.
Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Par exemple, si on a une résidence familiale.
Oui. Hey, moi, un autre conseil que je m'étais fait donner dans le temps, puis c'est plus facile quand tu as des enfants parce que les enfants, normalement, t'es aimes, puis tu veux pas qu'ils soient exposés aux affaires plates. Moi, un conseil qu'on m'avait donné, puis c'est une psy qui me l'avait donné à l'époque, elle disait... Avant d'envoyer quelque chose, une réponse, un dialogue, avant d'avoir une conversation, avant de dire un seul mot, pose-toi toujours la question. Si ton enfant voit ça, si ton enfant lit ça, si ton enfant entend ce que tu es en train de dire au téléphone, es-tu zen avec ça? Puis souvent, moi, ça me permettait de prendre tout le temps un ou deux pas de recul, un ou deux pas de prudence. Parce que quand t'es en joie le vert, tu veux te chicaner, puis ça arrive des fois que t'es en joie le vert dans un processus de séparation, mais de tout le temps. Puis c'est vrai, vous aviez raison, vous l'avez dit en début de conversation, tu sais, le conseil le plus important, c'est de toujours revenir aux enfants.
Oui.
Ça peut aider les plus bouillants et les plus émotifs, puis on l'est tous à un moment ou à un autre d'une séparation, je pense, de prendre le pas de recul nécessaire. Puis quand t'es pas sûr, appelle ton avocat.
Mais exactement, ça c'est le dernier conseil que je peux te donner. Dans chaque cas, c'est un cas d'espèce comme j'avais dit, donc chaque cas est particulier. Donc si on a des questions qu'on n'a pas eu de réponse suite à nos recherches sur les sources fiables,
même des
faut
fois,
aller voir un avocat.
Même ça, des fois ça. Sur comment formuler une demande ou comment formuler quelque chose qui bug. Tu sais, comment... Je veux parler de ça, je veux mettre ça sur la table. Comment je peux le faire sans que ça vire en chicane? De passer par le légal,
c'est pas fou, ça.
Ça crée une distance des fois que certaines personnes
oui,
ont besoin.
Exactement. On est nous dans les dossiers, puis on prend les dossiers, puis on aide nos clients, puis on les suit. Là. Donc, venez nous voir, tout simplement. Dans les circonstances, c'est ça qu'il faut. C'est aller voir un avocat, peu importe de qui vous voulez vous adresser. C'est ça le plus important. C'est si on est rendu à des questions qu'on n'a pas eu de réponse encore au niveau juridique, puis c'est essentiel d'y répondre, mais la personne la mieux placée est l'avocat.
La médiation. Médimono.
Oui, médiation, c'est vrai, excusez-moi. La médiation, ça fait partie du processus aussi. Donc, avant d'aller voir un avocat, si on est capable de régler à l'amiable la situation, la médiation, ça existe.
Mm-hmm.
Et la médiation peut nous amener à se rendre compte, OK, wow, je pense que j'ai réussi à régler finalement la séparation.
Puis ça crée aussi un élément neutre qui fait en sorte que c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans un dossier ou est capable de tasser les motifs puis de dire, bon, ben,